phrase de l'Évangile que nous venons d'entendre suggère à nos esprits beaucoup d'images. Nous les voyons, n'est-ce pas, ces personnes qui font groupe, qui gesticulent et qui hurlent à mort. Et les uns et les autres poussent en le bourrant de coups un homme, lequel est conduit en haut d'un rocher, surplombant un village qui domine la plaine d'Israël. Et voici que tout à coup, l'homme se retourne, il est calme, serein. Le regard lointain, sans un geste, sans un cri, il traverse les rangs des braillards, lesquels peu à peu se taisent, médusés. L'homme va son chemin, il va ailleurs. Quel extraordinaire condensé, résumé, n'est-ce pas, frères et sœurs, du destin de Jésus. Jésus qui va annoncer la bonne nouvelle du royaume ailleurs, toujours ailleurs que là où l'on croit le posséder. Et derrière l'homme qui gravit sous la bousculade le rocher de Nazareth, nous voyons déjà se profiler la silhouette de celui qui gravira le Golgotha et qui, ayant retourné la fatalité de la mort, ira son chemin à travers la Galilée qui est le carrefour de toutes les nations. C'est ce que nous chantions en introduction à notre célébration. Alors, en reprenant l'évangile de ce dimanche, les uns les autres, nous sommes remplis de perplexité. Mais comment en est-on arrivé à une telle rupture? Alors, nous le savons, certes, les foules sont versatiles. Mais comment ces gens sont-ils passés de l'admiration? Nous l'avons entendu, ils rendaient témoignage à Jésus, à cette fureur destructrice. Eh bien, l'évidence, il y a deux raisons. Premièrement, comme le dit le Seigneur lui-même, nul n'est prophète en son pays. Et certes, les auditeurs de Jésus, précise Luc, s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais tout de même, il n'était que le fils de Joseph, vous savez, le charpentier. Et deuxièmement, c'est la façon dont Jésus présente sa mission qui suscite l'ire de ses interlocuteurs. En effet, Jésus plonge ses racines infiniment plus loin que ne le pensent ses concitoyens. Il évoque un peuple de Dieu, un Israël ouvert, destiné à l'univers, y compris à Sidon et à Sarepta, ces villes qui sont connues pour être des villes païennes. Et c'est précisément de cette dimension universaliste que Jésus tire sa capacité à faire des miracles, alors qu'à Nazareth, cette capacité est comme étouffée, neutralisée. Avec les deux récits, celui qui concerne Élie et celui qui concerne Naaman le Syrien, Jésus veut précisément faire comprendre à ses auditeurs qu'ils ne doivent pas agir de façon possessive, mais accepter d'ouvrir leur cœur à la dimension universelle du dessein divin. Ils ne doivent pas vouloir conserver pour eux-mêmes Jésus. Ils ne doivent pas chercher à se l'accaparer, mais à le donner, à l'offrir. Malheureusement, nous l'entendons dans l'évangile de ce jour, les habitants de Nazareth n'accueillent pas cet enseignement. Bien au contraire, ils sont d'un seul coup remplis de haine contre lui. Et du reste, frères et sœurs, nous le savons que trop, c'est une constante de l'histoire et hélas, de la psychologie humaine. Lorsqu'un amour possessif est contrarié, il peut devenir agressif, voire criminel. Et c'est précisément ce qui advient à Nazareth. Luc rapporte qu'ils entraînèrent Jésus hors de la ville afin de le précipiter en bas. Quelle image saisissante! À Noël, nous célébrions le Très-Haut qui, en Jésus, se fait le Très-Bas pour nous rejoindre. Et voici que la population de Nazareth veut le jeter encore plus bas. Et cela ne fait que nous suggérer ce qui se passera le vendredi de la Passion, lorsque par trois fois, Jésus sera à terre. Alors aujourd'hui, cet évangile nous offre un enseignement extrêmement important. Nous devons tous ouvrir notre cœur et à ne jamais être envieux, fût-ce spirituellement. Nous devons ouvrir notre cœur à la miséricorde et à la grâce de Dieu. Nous devons demander ensemble à Dieu la grâce d'avoir une attitude qui corresponde à son dessein, à sa perspective. Dieu est amour, et parce que Dieu est tout amour, il est généreux, il se donne sans calcul, sans se lasser, et ne souhaite qu'une chose, c'est que nous puissions l'imiter. Et à cet instant, nous voyons toute la force de la seconde lecture. Resituons le contexte. Les Corinthiens auxquels Paul s'adresse ne voulaient pas tant vivre dans la charité que recevoir des charismes particuliers, des dons exceptionnels. Or, Paul les met gravement en garde contre cette dérive. Et il a cette formule si forte, « S'il me manque l'amour, je ne suis rien ». Et ce propos, frères et sœurs, destiné à la communauté de Corinthe, doit toujours résonner dans notre propre cœur. Car la tentation de l'exceptionnel dans notre vie spirituelle peut toujours nous faire déraper. Alors, pour conclure, permettez-moi de livrer à notre commune méditation ces mots du cardinal Vanois. Il écrivait « L'amour est plus grand que la foi, car la foi est seulement le fondement, la base pour vivre dans l'amour. La finalité de tout homme, c'est de vivre en communion avec l'amour divin dans l'amour du prochain. » Frères et sœurs, que cette année de la miséricorde nous permette de comprendre que Dieu ne veut pas de l'exceptionnel dans notre vie spirituelle. Il nous demande une chose, nous rendre disponibles à son esprit. Alors, c'est lui qui viendra sanctifier notre quotidien, notre ordinaire.